Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommet de ce 29 février 2024, on retrouve le parc naturel régional de la vallée du Trien, plus précisément Éline Premont, la chef de projet. Elle est accompagnée aujourd'hui d'Alexia Couta qui nous parlera patrimoine immatériel et Bernard Vouillot qui lèvera le voile sur le spectacle itinérant Que du bonus qui est mis sur pied, vous en doutez, dans le cadre de ce projet. Et puis en seconde partie d'émission, nous accueillerons Willy Zumbrunnen de l'association Brass Masters, une association qui propose un événement exceptionnel autour de la musique de cuivre au Théâtre du Martelet les 22, 23 et 24 mars prochains. Nous sommes le jeudredi 29 février 2024. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble pour une heure sur Agone Radio. Nous parlons pour cette première partie d'émission d'un sujet bien connu des auditrices et auditeurs puisqu'il revient périodiquement depuis quelques mois déjà, le parc naturel régional de la vallée du Trien. On va parler de deux projets ce soir qui tournent autour de l'axe 3 qui s'intitule Sensibilisation et éducation. Je vous rassure, pas d'école ce soir. Ces projets vont montrer comment des actions concrètes sont menées dans le cadre du parc naturel régional. On rappelle au passage que les populations des communes du parc seront appelés à se prononcer sur ce projet cette année, le 9 juin. Le oui des populations, c'est un élément essentiel pour que le parc passe de la phase de candidature à la phase de réalisation, même si, on va le voir, de nombreuses actions concrètes sont déjà en place. Alors, on reçoit autour de la table, il y a du monde, Éline Premont, chef de projet, salut.
Bonsoir.
Alexia Couta, vice-présidente de cette commission sensibilisation et éducation et aussi directrice culture et patrimoine du Trésor de l'abbaye de Saint-Maurice, salut.
Salut.
Et puis Bernard Vouillot, le représentant de la compagnie d'Acapo et metteur en scène du spectacle. Salut.
Bonsoir.
Premier sujet, inventaire et découverte du patrimoine culturel et immatériel. Alexia, le patrimoine culturel et immatériel, c'est quoi ?
Ah, c'est vaste.
Vaste question.
Vaste question. Alors, c'est classé, c'est reconnu par l'UNESCO, ce qui est déjà une chose importante à savoir. Mais chaque pays membre a la possibilité de donner son nom. Alors, ce patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel, PCI, la Suisse a choisi de l'appeler tradition vivante. C'est quand même plus parlant.
Hein. Ouais,
c'est quand même plus parlant.
Ouais.
Voilà. Donc, ça comprend tout le patrimoine, tradition orale, écrite. Ça peut être les dessins. Enfin, c'est vraiment très, très, très vaste. Et puis, bien souvent, ce patrimoine immatériel, ces traditions vivantes, sont supportées par du matériel. Donc, le matériel est au service de l'immatériel.
Alors, c'est des traditions qui sont... Qui doivent forcément, on imagine, dater d'un certain nombre d'années ?
Oui. Alors, pour le culte des reliques, qui a été reconnu d'intérêt national
quelques années,
1500, voilà. Le théâtre amateur également, qui a été reconnu, le carillonnage. Et puis, on a l'habitude de dire qu'il faut compter une septantaine d'années de tradition de manière régulière, pas d'interruption et d'évolution, parce que c'est ça le patrimoine vivant, ça évolue, ça se transmet de génération en génération. On en est tous dépositaires.
Quelque chose qui est vivant. Pour inventer ces biens, il y a eu un bureau qui a été mandaté, le CREPA, Centre Régional d'Études des Populations Alpines. Et puis, Éline, il y a des citoyens aussi qui ont été mis à contribution.
Oui, effectivement, donc le CREPA a été à la rencontre des citoyens donc dans les 7 communes du parc naturel régional. C'était des citoyens qui représentaient parfois des associations, des sociétés locales justement qui exploitent, préservent ce patrimoine culturel immatériel. Donc c'est grâce à ces connaissances, à ce savoir que l'inventaire a pu être réalisé.
Vous êtes concentré quand même sur un certain nombre de choses, en fait. Hein. Il a fallu se limiter un petit peu.
Oui, effectivement. Donc, on a la chance de pouvoir compter sur un riche patrimoine culturel immatériel sur l'ensemble du territoire. Durant cette phase de candidature, du coup, nous nous sommes concentrés sur un bien quasiment par commune et puis quelques biens qui représentent plusieurs communes, comme par exemple les fours Banneau qu'on retrouve à plusieurs endroits. Mais du coup, cette fois-ci, on s'est limité à quelques biens uniquement.
Alors, pour les connaître, on peut se rendre sur le site internet du parc. On trouve des fiches, on trouve même une carte qui nous permet de localiser ces différents biens du patrimoine culturel immatériel. Allons-y, on ne va peut-être pas tout citer parce que ça sera trop long. Mais Alexia, quelques exemples.
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on a parlé du carillonnage, puisque ça couvre les 7 communes du parc. Alors, Saint-Maurice a certes été retenu parce que peut-être plus facile, plus proche d'accès, mais Finhaut, Salvan ont un patrimoine de carillonnage au piquet et à la volée typique que l'on trouve difficilement ailleurs. L'abbaye de Saint-Maurice a un très gros carillon, effectivement le plus grand de Suisse encore à ce jour, 14 tonnes, mais il y a également des promenades qui ont lieu aussi autour des histoires, des légendes, et c'est chaque fois avec des guides du patrimoine et agrémenté de douceur locale.
C'est important.
Bah oui,
c'est l'aspect matériel, ça.
Complètement.
les douceurs locales. Bah, on va de toute façon parler dans un petit moment du programme et des différentes choses qu'on peut découvrir. Alors, j'avais noté quelques exemples. On a cultiver la vigne et faire son vin. Ça, c'est du côté de Martigny. Le théâtre amateur, c'est très développé.
En Valais, oui, beaucoup. L'association valaisanne des théâtres amateurs est très très vaste, peut-être autant que les fanfares ou que les brasses.
Alors on posera la question plus tard, qu'est-ce qui est le plus important, le brass ou
tout,
le théâtre?
Parce que tout est interdépendant, la culture et les arts vivants. Mais oui, ça, vous avez effectivement ça, il y a plein d'autres choses. Vous avez sur votre liste?
Ouais, j'ai
on trouve des aspects.
Le patois.
Le patois, oui.
Ouais, le patois. Alors là, c'est du côté de Salvan. Et puis, bon, bah, le four banal, Éline l'a dit. Voilà, bon, j'ai pas fait toute la liste, mais c'est quelques exemples que j'avais.
On a aussi des choses un peu plus techniques, si je peux me permettre,
ah oui,
qui
bien
concernent
sûr.
Bien sûr les métiers, par exemple, en lien avec le métier de barragiste, par exemple, qui est un...
Barragiste, hein, avec un B, pas un G.
Oui. Ouais. Oui, qui sont aussi très, 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 très importantes. On pourrait pas s'en passer.
Et alors, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a des biens, Alexia, tu l'as dit, qui sont communs sur plusieurs communes, mais il y a quand même eu la décision, peut-être pour être un peu plus représentatif, de rattacher certains biens à une commune en particulier pour représenter un peu toutes les communes du parc.
Absolument. Alors ça, c'est quelque chose que le CREPA a choisi en collaboration. Je pense que Éline serait mieux placée que moi parce que ça a été très compliqué de sélectionner parce que c'est très vaste. Il y aura sans doute des gens frustrés parce que il est vrai qu'on a un patrimoine très très riche sur un territoire difficilement accessible. Donc le travail va continuer, mais je crois que je vais laisser plutôt Éline en parler.
Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la première étape de l'inventaire est extrêmement riche. Et puis après, on a décidé d'aller un petit peu sous un système de filtre en se disant, ben voilà, il nous faut sélectionner des biens, mais surtout, qu'est-ce qui est facilement valorisable aussi aujourd'hui grâce à une visite. Il y a certains éléments où ça nécessite encore énormément de recherche, d'historique, etc. Donc, on a mis le focus sur des biens du patrimoine culturel immatériel qui sont faciles, disons, d'accès à travers une visite guidée et la plupart du temps, des associations, des sociétés sont déjà en place pour le valoriser.
Et là, on touche à un point très important, je l'ai évoqué, c'est un projet de parc naturel régional, les populations doivent dire oui, on veut ce parc naturel régional et ancrer ça dans le marbre, en tout cas pour un certain nombre d'années, ce qui n'empêche pas de déjà réaliser des choses, hein. Donc ce n'est pas que des projets. Tu l'as dit, Éline, il y aura des visites, il y aura des événements qui vont être organisés autour de ces différents projets. On peut en parler peut-être. Cette visite sur les 7 communes, ça va de janvier jusqu'à juin. Alors, il y en a déjà eu quelques-unes, mais qu'est-ce qui nous attend ces prochains mois?
Alors, effectivement, on a déjà eu la chance de pouvoir visiter, on peut le dire, 2 communes à travers ces biens. Donc, il y a eu d'abord à Finhaut la fête traditionnelle patronale de la Saint-Sébastien. Et puis, on parlait tout à l'heure de théâtre. À Eviona, en février, nous sommes allés au Théâtre du Dé et dans le village pour découvrir justement cette pratique du théâtre amateur. Pour la suite, donc au mois de mars, on ira à Salvan avec la société des Li Charvagnou, qui sont donc les patoisans, qui font déjà actuellement un travail remarquable pour préserver, disons, cette langue et la transmettre plus loin.
Avec une visite là, objet, pratique en patois, avec quand même une petite explication en français pour être sûr de comprendre.
Exactement. Et puis là, l'idée, ça sera aussi de faire participer les personnes qui prennent part à cette visite, à leur faire peut-être prononcer et puis apprendre quelques mots exactement de cette langue qui est peu connue, on peut dire, pour les nouvelles générations.
20 avril, Martigny-Combes.
À Martigny-Combes, le quartier de Ravoir contient de nombreux fours à pain, fours banaux. C'est clair que c'est un élément qui est extrêmement important pour les habitants du hameau. Et du coup, la balade permettra de façonner sa miche de pain, d'aller se promener, visiter certains fours et de revenir pour déguster le pain qui aura été gentiment cuit au four.
Alors, à celles et ceux qui connaissent un peu la géographie entre Martigny et Ravoir, il y a une légère montée. On va être rassurant. C'est un point de rendez-vous en bas. Et puis, ensemble, en partageant éventuellement les voitures, de se rendre du côté de Ravoir, il y aura quand même une petite randonnée. J'ai noté 3,5 km, 230 mètres de dénivellation. Oui. Donc, c'est largement accessible. Exactement. Pour découvrir ces fours à pain. Alors là, bien sûr, j'ai les yeux, les oreilles grandes ouvertes le 11 mai. Alexia, ça sera Saint-Maurice, visite guidée alors dans les entrailles du Carillon.
Dans les entrailles du Carillon et de ses 49 cloches.
49.
49, oui.
Certains poids. Hein.
14 tonnes.
Voilà.
Voilà. Trinitas, le bourdon qui lui fait un tout petit peu plus que 4 tonnes. Voilà, c'est un beau bébé. Et effectivement, le carillonneur Antoine Cordoba, accompagné de Carmen Asensio, fera visiter aux heureux inscrits le carillon de l'abbaye. Et ça vaut vraiment la peine. D'abord, il est accessible parce qu'il y a certains clochers où il faut ne pas avoir le vertige. Alors quand vous êtes comme moi, c'est compliqué, vous écoutez d'en bas. Et puis là, il y a quand même des escaliers. C'est assez raide, mais c'est praticable. Et puis le carillon, c'est un art populaire, on peut l'entendre, c'est de partout.
Oh, à Saint-Maurice, on l'entend régulièrement pour avoir vécu quelques temps à proximité. C'est vrai, on l'entend souvent. À découvrir donc, ça c'est le 11 mai, toujours au mois de mai, à Verneuilla. Il était une fois, Éline, la belle époque.
Exactement, donc à Verneuilla, ici le lien avec le patrimoine culturel immatériel, c'est la pratique de l'aménagement des gorges. Et puis effectivement, donc l'aménagement des gorges à Verneuilla est clairement lié à la belle époque, à la naissance du tourisme dans la vallée du Trien. Donc c'est cet aspect-là qui sera abordé, et aussi au train nostalgique du Trien, donc qui traverse la vallée.
Avec là aussi participation de l'association des trains nostalgiques du Trien, donc des grands spécialistes de ce domaine.
Exactement. Dans chaque balade, en fait, il y a toujours donc un guide du patrimoine qui mène le groupe, et puis on retrouve justement, comme on l'a dit avant, chaque fois une société ou bien un représentant qui connaît très bien son patrimoine culturel immatériel pour partager les savoirs et échanger.
Du coup, ça sera aussi le cas le 8 juin. C'est la dernière découverte à faire du côté du Trien. Le bis au fil de ces utilisations. Là aussi, le bis, alors en Valais, c'est quelque chose de sacré. J'ai lu quelque chose d'intéressant. Ce bis, on s'en servait aussi pour amener de la glace qu'on exportait loin à la ronde.
Tout à fait, c'est juste jusqu'à Paris.
C'est plus le cas aujourd'hui. On la garde, la glace, il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer pour cette balade, justement, le bis ?
Alors là, effectivement, on parlera du métier du gardien du bis. Quel est son rôle aujourd'hui? Donc, nous avons toujours des gardiens du bis à Trien. Et puis aussi de son aspect important pour l'irrigation du côté de Martigny-Combes.
Voilà, tout ça, c'est à découvrir, le programme détaillé, les différents événements, les points de rendez-vous, les inscriptions, etc. sur le site internet parc-valleydutrien.ch. Merci Alexia, merci Éline. On va marquer une petite pause musicale et puis ensuite on va parler de spectacle itinérant.
Jeudi redi, Fabien Lafarge, Victor Glacet, 17h30, 18h30, en direct sur Agone Radio.
Après cette pause musicale en toute quiétude, on se retrouve pour parler du parc naturel régional de la vallée du Trien, de l'Arpie à la cime de l'Est. On m'a corrigé pendant la pause, il faut préciser ça, de l'Arpie à la cime de l'Est. Ça donne une bonne indication géographique sur le territoire couvert par le parc. On parle ce soir de l'axe numéro 3, sensibilisation et éducation. Parmi les projets qui sont inclus dans cet axe, on a un spectacle itinérant, le titre « Que du bonus ». On en parle avec Bernard Bernard Vouillot, représentant de la compagnie Dacapo et metteur en scène. Alors, pour commencer, Bernard, c'est quoi ? C'est qui, cette compagnie Dacapo ?
Alors, la compagnie Dacapo, c'est une compagnie de théâtre qui est basée à Verneuil-Ha. C'est une jeune compagnie, elle a été créée il y a une dizaine d'années. Et cette compagnie, elle travaille avec des comédiens de la région. Alors, à ce jour, elle a réalisé 3 productions et on les a produites dans l'espace du théâtre du Dé des Vionnats. Et cette compagnie, elle a une particularité, elle ne fonctionne pas tout à fait comme une autre troupe de théâtre de village, c'est-à-dire que c'est une unité de production, on est une petite équipe et on propose des projets et on offre aux comédiens amateurs qui veulent bien travailler avec nous, avec qui on propose des textes, on leur propose un encadrement professionnel. Voilà, donc pour la production, pour la dramaturgie, l'écriture, pour tout ce qui encadre, disons, le travail du comédien proprement dit, la scénographie, la technique des scènes, les costumes, les maquillages, etc.
Voilà, un travail complet. Ce spectacle, Eline, va voir bientôt. Alors bon, on peut dire que c'était tout trouvé, cette compagnie Dacapo, pour créer ça. Mais comment est né ce projet ?
Alors, la compagnie Dacapo était effectivement toute trouvée. Par contre, après, c'est clairement une troupe qui a été mise en place exclusivement pour ce spectacle. Donc, on compte au total, entre les acteurs et la production, plus ou moins une trentaine de personnes qui œuvrent autour de ce spectacle. Et puis, surtout, on a 20 dates qui nous attendent, donc ce printemps.
On en parlera tout à l'heure. On va tout dire ces dates. Comme ça, chacun pourra choisir où est-ce qu'il veut aller, quand il veut aller. Des comédiens amateurs qui viennent de tout le territoire du parc. Bernard, comment on fait le casting ? Comment on organise les répétitions pour un projet comme ça, avec des gens qui viennent d'un peu partout ? Et comment on les trouve, toutes ces questions-là ?
Bon, après avoir discuté tout au départ du projet avec Luc, Pidia, Eline et Alexia, avec qui on a discuté de ce projet, on avait quand même la contrainte de d'engager des personnes de la région et et si possible de toutes les communes. Il y a 7 communes, mais justement c'était une opportunité magnifique pour nous, ce projet, parce qu'on a l'habitude, justement, alors ça tombait bien, on a l'habitude de travailler avec des comédiens de Trien, de Martigny-Combes, de Fin-Haut, Salvan, des Vionnats, de Verneuil-Ha, et ça s'est très bien déroulé. Donc on a pu engager des comédiens qui représentent toutes les communes.
Voilà,
et c'est superbe.
Alors, parlons de cette pièce, parlons de ce spectacle itinérant, de quoi ça va parler ?
Ben, le spectacle, il propose de parler des thèmes du parc.
Ouais.
Alors, on est juste avant une votation, ça, c'est la stratégie, elle est là.
Hein. Ouais.
Et nous, ce qu'on veut, en discutant avec avec les responsables de cette association Parc Nature et Régional, on veut rassembler la population avant cette votation.
Qui aura lieu en plus le 9 juin, on l'a dit. Hein.
Donc on va parler des thèmes du parc naturel, qui sont des thèmes sérieux.
Bien sûr.
Et évidemment, nous, avec le théâtre, on va essayer de les prendre avec légèreté, avec humour, de manière parfois assez caricaturale. Pourquoi ? Ben parce que ça va divertir, ça va rassembler, et puis on peut parler de choses sérieuses de manière légère, de manière festive, et cela apporte aussi des éléments de réflexion. On n'est pas tous, forcément, quand on rassemble la population à une assemblée citoyenne, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'a pas le même point de vue, etc., sur les choses. Et le bon moyen, ce spectacle, c'est de rassembler les gens, et ça fait circuler les idées, ça fait partager des points de vue, et c'est le but, en fait.
Ambiance café-théâtre avec justement ces comédiens sur scène qui jouent le rôle de qu'est-ce qu'on peut dire, de spécialistes qui parcourent un petit peu tout le territoire du parc pour partager... Enfin, pour donner de la voix pour leurs projets. Alors, des projets qui sont assez souvent originaux. Hein.
Oui, les personnages, disons que L'idée, c'est que c'est une poignée de personnes qui sont des, qui se disent spécialistes dans les domaines,
les docteurs,
des thèmes du parc, voilà, des docteurs.
et on en a tous.
Ils se sont autoproclamés spécialistes et ils sont sûrs d'avoir des idées prodigieuses. Ils ont décidé de parcourir les 7 communes du parc, de convoquer des assemblées citoyennes, disons d'inviter les citoyens à venir les écouter. Et évidemment que ce sont des projets... Ils sont persuadés que ces projets sont absolument magnifiques, mais évidemment que ce sont des projets loufoques, absurdes, mal pensés ou de mauvais goût qui ont été écartés par le comité. Mais eux pensent que toutes ces idées sont des idées de génie. Donc, ils vont expliquer ça à la population. Alors, parmi ces gens, il y a par exemple un pèlerin qui fait la Via Francigena, puis qui s'arrête à Saint-Maurice, puis qui a tout à coup, devant la falaise de Saint-Maurice, tout à coup une idée de génie qu'il veut partager avec la population. Il veut par exemple, créer une ascension mystique grâce à la cime de l'Est. Un concept très original. Il y a une spécialiste des langues anciennes, on a parlé du patrimoine immatériel tout à l'heure, qui a l'idée de réveiller le patois qui sommeille en nous, et alors par l'hypnose. Et alors voilà, elle va faire une expérience en direct. Et alors ces deux petits exemples, c'est que voilà, on parle des thèmes, on parle du patrimoine immatériel de manière décalée, mais c'est des choses très sérieuses.
C'est un peu une mise en abîme hein, pour le spectateur qui se retrouve dans cette assemblée citoyenne finalement pour écouter ces orateurs avec leurs drôles d'idées. Alors finalement, le spectateur, c'est à lui de décider s'il trouve ses idées bonnes ou mauvaises.
Ah bien sûr, hein, c'est à lui de décider. Alors les présentateurs, les présentatrices et les présentateurs sont persuadés que tout le monde sera évidemment de leur avis et seront de leur côté. Alors après, le public jugera.
Alors pour juger, Éline, on l'a dit, il y a quelques représentations prévues. Alors entre le 5 avril et le 26 mai, donc je pense que dans l'agenda de tout le monde, on devrait trouver une date, même si on doit se déplacer un petit peu, dans les 7 communes du parc. Alors, où est-ce qu'on pourra voir ce spectacle, Éline ?
Donc, la tournée, elle débutera à Vernaya, au Boulodrome, pour les 5, 6 et 7 avril. Donc, de manière générale, c'est chaque fois 3 dates dans les villages, vendredi, samedi et dimanche. Ensuite, la deuxième commune sera Martinicombe, 12, 13 et 14 avril. Puis, on ira à Trien, où là, on jouera uniquement 2 fois pour des raisons de disponibilité, donc les 20 et 21 avril. On sera ici dans la salle communale. À Finhaut, c'est la salle polyvalente qui nous accueillera les 26, 27 et 28 avril. Et puis, on reviendra en plaine à Eviona, dans la grande salle, le 3, 4 et 5 mai. Et c'est l'avant-dernière date qui sera à Saint-Maurice, où là, nous aurons la chance d'exploiter l'Ola de la Tuilerie les 17, 18 et 19 mai. Et puis, la tournée se finira à la Salvanens, donc de Salvan, comme le veut le jeu de mots en patois, les 24, 25 et 26 mai.
Je viens de comprendre le nom de la salle. Merci. merci pour l'explication. Comment on fait, si on est intéressé, parce que je suis sûr que nos auditeurs sont intéressés, comment réserver, comment ça marche?
Alors, sur le site www.que-du-bonus.ch, vous trouvez toutes les informations avec les horaires. Donc, on a des spectacles les vendredis et samedis à 20h et puis dimanche en fin d'après-midi à 17h. Le prix est de 20 francs. C'est un tarif unique, donc tout à fait accessible pour de nombreuses personnes. Et puis, on aura aussi la chance de compter sur le soutien des jeunesses, donc des sociétés de jeunesse de chaque commune, pour exploiter donc le bar et servir une petite restauration. Donc c'est vraiment un projet fédérateur avec une grosse troupe qui va voyager sur les 7 communes.
Une troupe intercommunale, les jeunesses locales, ça, peut-être qu'on pourrait les mettre au patrimoine immatériel aussi, les sociétés de jeunesse. Chez nos amis vaudois, ça fait très longtemps que ça existe, en Valais c'est un peu plus récent. Ça sera aussi l'occasion de rencontrer les jeunes dans ces différents villages qui font vivre et qui animent les choses. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci Bernard pour ces explications. Plein de succès dans ces représentations. Et puis merci à Alexia pour ces riches enseignements sur ce patrimoine immatériel. Éline, qui sait tout sur tout, notre fil rouge. On se retrouve tout bientôt pour parler du parc naturel régional Vallée du Trien, de l'Arpi à la Cime de l'Est. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'informations, plus de choses à savoir, www.parc-valleedutrien.ch. Merci.
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 Et on est content de vous retrouver dans ce jeudredi pour cette deuxième partie d'émission. Nous l'avions annoncé dans le sommaire, cette deuxième partie d'émission sera consacrée à la musique, ça tombe bien. Il n'y a que des musiciens autour de cette table et Victor qui nous a rejoint. Comment ça va ?
Bien et toi ?
Alors tu as des invités particuliers pour cette deuxième partie.
Et on a commencé l'ambiance avec In the Mood par le Big Band de l'armée suisse. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Willy Zumbrunnen qui va nous parler du Brass Master 2024 qui aura lieu à Saint-Maurice au Théâtre du Martelet les 22, 23, 24 mars prochain.
C'est bientôt.
Alors ce concept de Brass Master, c'est quoi ?
Alors, bonsoir tout le monde. Et le Brass Master, en fait, c'est venu d'une idée. Vous savez, à Montreux, on organise le concours suisse des Brass Bands, qui a lieu au mois de novembre en général. Et un jour, en parlant avec Patrick Robatel, je pense que Pierre-Yves Robatel le connaît.
Même pas, apparemment pas. Hein.
Mais ils n'ont pas de
aucun
parenté.
Lien.
Patrick Robatel, qui était le chef de la musique militaire en Suisse, en parlant avec lui, on a plus ou moins échafaudé une idée de réunir une fois tous les orchestres de militaires de la Suisse, de militaires suisses. Et puis, on a, finalement, ça ne s'est jamais réalisé. Le printemps passé, je me suis dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Au printemps, et on a échafaudé l'idée de réunir des brass bands amateurs de haut niveau suisses avec des ensembles de la musique militaire qui, eux, sont des professionnels. Et puis, pour nouer tout ça, il fallait aussi qu'on ait des solistes. Et l'idée de faire venir James Morrison et Thomas Gunch vient aussi parce que ces musiciens viennent de ce milieu-là, au départ. Ce sont des stars internationales, des musiciens qui tournent dans le monde entier, qui joue avec les plus grands orchestres, les plus grands chefs d'orchestre.
Le Nozzle Brass, par exemple, pour Gunch.
Nozzle Brass, voilà, ça c'est le groupe par Thomas Gunch, qui fête ses 30 ans cette année. Alors, pour citer juste cet exemple-là, Nozzle Brass, en fait, il y a 30 ans, c'était des étudiants en musique qui se réunissaient dans un bistrot après les cours à Vienne. Et puis, ce bistrot s'appelait Nozzle. Et ils ont monté ce groupe, Nozzle Brass, qui jouent actuellement, ils sont aux États-Unis maintenant. Ils font une tournée aux États-Unis et ils jouent partout. Ils sont venus à Saint-Maurice plusieurs fois. Je les ai fait plusieurs fois au Martelet. Mais on va parler plutôt des Brass Masters puisque ce sont pas les Meusil qui viennent à Saint-Maurice cette année. Ce sont d'autres groupes, dont les ensembles amateurs. Il y a donc pour le Valais, il y a un groupe qui s'appelle Ambitus. Ambitus, c'est un brass band qui est basé à Orcières, qui est constitué de beaucoup de très jeunes musiciens qui sont vraiment férus de cette musique et qui travaillent beaucoup pour augmenter le niveau musical de cet ensemble. Et puis nous avons un groupe vaudois Melodia et un groupe fribourgeois, le brass band Fribourg.
Avec beaucoup de musiciens valaisans en brass band de Fribourg.
Un peu de chauvinisme.
Alors, effectivement, moi, je suis allé avec le brass band de Fribourg. Lorsqu'ils étaient champions suisses, je suis allé avec eux en Norvège. Et c'était Arsène Duc qui dirigeait cet ensemble. Arsène Duc, c'est un copain de plus de 20 ans en arrière. C'est un chef d'orchestre magnifique.
Qui est cette semaine à la Fashion Week à Paris.
Alors, j'ai lu quelque chose sur le journal, effectivement, oui.
Avec l'ancienne Cécilia Chermignon pour un défilé
C'est ce que j'ai lu.
Pour un défilé de mode.
Défilé de mode, oui. Donc, pour revenir à ce programme, donc, le vendredi 22, ça commence par l'ouverture des portes au collège, ensuite l'ouverture des portes au Théâtre du Martelet, une heure après. Pourquoi une heure ?
Alors, il y a un apéritif.
Ah, bah voilà.
Il y a un apéritif d'ouverture et puis il y aura quelques discours de personnalités qui sont invitées à cette soirée.
À 20h30, on a le Swiss Army Big Band voilà. joue avec deux solistes, donc en fait les deux solistes, hein, Morrison et puis Gansch. C'est un concert complet.
Au niveau public.
Alors non, pas non, au niveau musique. Enfin,
ah oui, c'est un concert public, non, enfin, complet, avec deux sets. Donc il y aura un premier set, une petite pause, et puis un deuxième set. Ça représente quand même une vingtaine de morceaux, dont les solistes vont jouer un peu plus que la moitié des morceaux. Oui.
C'est quoi le style du Big Band de l'armée? Alors, c'est un vrai Big Band, comme on l'entend ou...
Oui, c'est un vrai Big Band, ils sont 18 musiciens. Donc c'est une formation classique, un trio rythmique, piano, basse, batterie, il y a encore un guitariste. Après on a 5 saxophonistes, 4 ou 5 trombones, c'est selon, des fois c'est 4, des fois c'est 5. En principe 5 trompettistes, et on aura les solistes en plus, et là il y aura encore une chanteuse.
Donc c'est pas le style Big Band à l'américaine avec 50 solistes de front.
C'est à ça que je pensais.
Oui, c'est un peu le concept. Non, c'est pas le concept marching band. C'est pas du tout ça. C'est vraiment big band.
Plus petit.
Les musiciens sont alignés en 3 rangs, dans le fond, les souffleurs. Et puis la section rythmique à gauche et les solistes devant.
Quel style de musique?
C'est très jazzy.
Très jazzy.
Oui.
Moderne ou ancien
Alors, c'est très mélangé.
Et puis, comment ça se prépare, en fait? Comment ces solistes mettent à l'intérieur d'un big band comme ça? Au feeling, il y a des répétitions?
Ah non. Non, c'est tout est organisé. On a fonctionné comme ça. Donc, j'ai posé la question aux solistes, à James Morrison et Thomas Gensch. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer? Parce qu'en fait, comme il y a 3 formules musicales différentes, on a le big band... Le samedi, on a le brass band de l'armée, et le dimanche, on a les 3 brass bands suisse-romand. Alors, on a monté un programme de manière que les solistes ne jouent jamais 2 fois le même morceau pendant les 3 jours. Donc, eux, ça va être un marathon pour eux.
C'est des professionnels, ils jouent de toute façon 4-5 heures par jour, donc ouais, c'est une journée classique.
C'est clair. Mais pour ces musiciens, c'est un marathon parce qu'ils vont jouer une quarantaine de morceaux sur le week-end. Et c'est en général des morceaux qui sont techniquement assez difficiles. Mais bon, donc James Morrison m'a proposé un certain nombre de morceaux dont lui a fait des arrangements ou des compositions. Et on a diffusé ça aux 5 formations qui viennent à Saint-Maurice en disant, voilà, maintenant faites votre choix, faites votre marché à quelque part. Vous faites votre choix dans ce programme et on en rajoute... des morceaux qu'on va proposer, nous. C'est ce qu'on a fait. Alors, bon, les musiciens des brass bands suisses sont déjà en train de travailler depuis quelques semaines hein, pour préparer le programme. L'armée, ils ont répétition 3 jours avant l'événement. Ils ont 3 répétitions. Et puis, une, on va faire avec James Morrison. Et Thomas Gansch, il viendra directement au concert.
Morrison, il vient quel instrument? Parce qu'il joue de l'harmonica, du trombone, de la trompette, lui, il joue à peu près tout ce qui est possible, imaginable.
Alors vous savez, lui il a enregistré un disque où il fait tout, sauf la batterie. Donc il a enregistré un big band, c'est un big band. Alors on voit bien sur les images, c'est toujours James Morrison, sauf le batteur. Il joue du trombone, du saxophone, de la trompette, de la guitare, de la contrebasse, du piano.
Tranquille.
Facile.
Non, tranquille, c'est vrai.
Ouais, voilà.
C'est un gars absolument génial, Morrison.
Et puis donc après ce concert, il y a le Jam Session au Brass Club.
Alors on a imaginé, on ne voulait pas finir la soirée après le concert à 11h15 le soir. Donc,
un apéro.
On commence avec un apéro.
En plus l'apéro, il a eu lieu avant.
Voilà. Alors, le verre de l'amitié.
Voilà, exactement. Et alors on fait on va créer, puisqu'il n'est pas encore créé, un brass club au niveau vers l'entrée du théâtre. Dans cet emplacement-là, il y aura une scène qui sera équipée avec les instruments qu'il faut pour que les musiciens puissent venir, même sans instruments. Enfin, en tout cas, pour ce qui concerne guitare, contrebasse, batterie et piano. Et on a un trio, donc ce sont des professeurs de l'EJMA, Valais. Je précise Valais parce que je crois qu'il y a 2 EJMA, c'est un à Lausanne et un à Valais. Donc c'est trois professeurs de Liège-Marvalet. Il y aura Luigi Lamarca à la batterie, Patrick Perrier qui est pour moi un des contrebassistes, à mon avis un des meilleurs qu'on puisse trouver en Suisse romande.
À cordes. Hein.
À cordes, mais il joue aussi de la guitare basse. Et puis Federico Manetta au piano. C'était prévu un autre, mais il n'a pas pu finalement venir. Donc ces trois musiciens, qui sont des professionnels, eux, ils connaissent tout le répertoire. Alors ils m'ont proposé un certain nombre de morceaux aussi, qu'on peut proposer à tous les autres musiciens qui veulent venir faire cette jam session. Donc voilà comme le fonctionnement.
Et puis donc à la fin, l'idée c'est que les musiciens tournent.
Voilà, exactement. Alors il y aura donc les trois musiciens qui seront là, sitôt que les portes du théâtre s'ouvrent parce que le concert est fini, eux ils démarrent. Ils vont démarrer sur un thème, je ne sais pas lequel, ils vont démarrer sur un thème. Et puis là, il y aura peut-être déjà des musiciens qui viendront de l'extérieur, qui seront peut-être déjà là en disant « Oh, on aimerait bien jouer avec vous », etc. Et ça fonctionne comme ça. Une bonne jam session, là, qui va durer à peu près 2 heures, voire peut-être un peu plus.
Oui, parce que des fois, les musiciens, c'est difficile de les arrêter quand ils sont partis.
Exactement.
Hein.
Une bonne jam session, elle peut durer... On peut durer jusqu'à 5 heures du matin. Mais là, on ne va pas le faire. Mais disons, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de musiciens qui viennent. Parce qu'une bonne jam session, c'est pas quand il y a que 3 ou 4 musiciens, c'est quand il y a 10, 15 ou 20 qui viennent passer sur le podium. C'est donc, ça un petit peu l'idée.
C'est l'animation musicale par les gens qui ont fait les concerts avant ou des gens qui viennent.
C'est l'idée, voilà, c'est l'idée, c'est ça.
Le samedi, le matin, il y a le kiosque à musique.
Alors, le samedi matin, on aura le kiosque à musique avec Jean-Marc Richard. On a fait la programmation avec Jean-Pierre Chevalier. Bon, la programmation était quand même relativement vite faite, parce qu'on a pris quand même des gens du... Donc le Swiss Brass, le Brass Band de l'armée suisse. Après, moi, je joue dans un orchestre de jazz. On va venir aussi, il y a une chorale. Là, on est presque obligé chaque fois d'avoir une chorale. Et puis, il y a encore une fanfare de rue qui s'appelle...
Luxigo.
Voilà.
Qu'on connaît.
On les connaît.
Avec Joseph Fossera, là, c'est super ce qu'ils font. Moi, j'adore ce qu'ils font parce que c'est vraiment quelque chose de convivial, de sympathique. Ça bouge, il n'y a pas de partition, c'est spontané. C'est vraiment bien. Alors, ces quatre groupes vont faire la programmation du kiosque à musique entre 11h et 12h30. Et pour ça, on a des répétitions. Alors, le matin, on a, pour faire le soundcheck, pour que la prise de son soit bonne par la radio... entre 9h et 10h30.
C'est ouvert au public. Hein. Enfin, on demande plutôt qu'il y ait du public qui vienne.
C'est ouvert au public et c'est gratuit. Hein.
L'après-midi, il y a le Montreux Jazz Band au Brass Club.
Non, alors après l'apéritif... Si on
Montreux Jazz Band, oui.
Après l'apéritif, jusqu'à la masterclass de James Morrison, je me suis dit qu'il fallait animer un peu l'endroit. Alors nous, on va jouer quelques morceaux et puis la fanfare de rue va aussi jouer là.
Ensuite, il y a le masterclass avec Morrison.
Voilà, alors là, c'est...
C'est réservé aux musiciens
Non.
C'est ouvert à tous les musiciens.
C'est ouvert à tous les musiciens. C'est quelque chose d'interactif. Donc, les musiciens peuvent participer à ce cours, à quelque part, qui sera donné par James Morrison. Donc, il va expliquer des astuces pour monter dans les aigus, par exemple, avec une trompette. Il va parler probablement de la colonne d'air... Et de la musique en général. Hein.
Le soir, il y a le Swiss Brass Band qui fait la même chose que le vendredi, mais enfin, ce n'est pas les mêmes, hein, puisque c'était le Big Band le vendredi. Le samedi, c'est le Brass Band, de nouveau avec Morrison et puis Gansch. Donc, c'est un autre.
Absolument.
C'est le même principe, mais sur complètement un autre répertoire.
Alors, effectivement, donc, le vendredi soir, c'est très jazzy. Et le samedi, ça sera plus. Populaire, je dirais, en brass band, la musique plus typée brass band.
Plus valaisan, quoi. si je peux caricaturer.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a Ludovic Neurer qui est dans un des morceaux. Donc, ils ont choisi un morceau de Ludovic, qui est un compositeur extraordinaire en Valais. Hein.
Oui, très connu, oui.
Oui, très connu, oui. Et donc, ça sera un peu plus brass band, là.
Et puis, les deux invités, Morrison et Gansch, comment ils font pour jouer dans un big band le vendredi, dans un brass band le samedi? C'est quelque chose de très particulier.
Ah, c'est des musiciens qui sont, comment dire, c'est des musiciens qui sont extraordinaires. J'entends, ils ont une facilité. Gansch, il fait du jazz, il fait du classique, il fait de la musique autrichienne, populaire. Il est dans toutes les trucs, toutes les combines.
Le dimanche, c'est la journée pour les ensembles de cuivre. Hein. C'est l'après-midi. Enfin, il y a ouverture des portes à 11h, ensemble de cuivre en vétuste à 14h. Il y a de nouveau un apéro entre 11h et 14h.
Oui, il y aura un apéritif à midi, ouais, effectivement. Non, mais il faut bien faire manger ces gens. On a commencé le programme à 2h. Et puis ça s'enchaîne après jusqu'à 6h, 6h30, à 7h, ça sera fini.
Ok, puis à la fin, il y a un morceau d'ensemble.
Alors, on a un tout petit peu modifié le concept parce que la scène est grande. La scène du théâtre, elle est grande. Mais il y avait beaucoup de monde à placer quand même sur cette scène. Puisque ça représentait plus plus de 100 musiciens à mettre sur la scène, plus toutes les percussions. Ça prend beaucoup de place. Alors, on a décidé qu'on allait faire un morceau qui sera Caravane de Duke Ellington, un morceau dont ça sera l'ensemble de Fribourg qui sera le lead, et viendront se joindre les musiciens de Melodia, et puis viendront se joindre tous les musiciens qui veulent prendre un chorus dans le morceau.
Donc tous les musiciens, c'est-à-dire les musiciens qui ont participé à l'après-midi,
voilà. Ok. Les musiciens qui connaissent le principe des accords, des grilles harmoniques, ces gens-là pourront venir sur scène et faire un chorus. Donc, ce morceau, le Caravane, il peut durer 5 minutes comme il peut durer 40 minutes. Ça dépendra du nombre de musiciens qui viendront.
Une petite pause musicale avec Thomas Gansch, pour ceux qui ne connaissent pas ce trompettiste célèbre du Nosil Brass. Retour sur Agon Radio avec Willy Zumbrunnen pour parler du Brass Master 2024. Donc on a parlé de ces trois jours, on va résumer. Donc le vendredi, c'est une soirée plutôt jazz.
Oui.
Le jazz. Samedi, c'est une soirée un peu brass band.
Typique, oui.
Typique. Et le dimanche après-midi?
Alors, c'est très mélangé le dimanche. Il y a de la musique du rock, il y a de la pop, il y a du jazz, il y a de la musique classique, il y a des ballades, il y a, qu'est-ce qu'on va dire encore, purement de la musique brass band aussi. Mais il y a en gros, je dirais, chaque band va jouer une dizaine de morceaux, ça veut dire 30 morceaux, plus le rappel, les rappels, parce qu'il y aura des rappels. Donc c'est vraiment l'après-midi très varié.
Pourquoi il ne faut pas louper cet événement? Enfin, un peu de pub là.
J'ai pas compris.
Pourquoi il ne faut absolument pas louper cet événement?
Il ne faut pas le louper, non, absolument.
Pourquoi?
Ah, pourquoi? Parce que c'est l'occasion d'entendre premièrement des solistes extraordinaires pour les musiciens. Moi, j'attends quand même avoir un public composé de à peu près 50% de musiciens. C'est ces gens-là qui doivent vraiment venir parce qu'ils apprennent quelque chose, même en écoutant des solistes de ce type-là. Simplement, en les écoutant, en voyant leur manière de jouer, ils apprennent. En fait, c'est pédagogique, quelque part.
Et pour les non-musiciens?
Pour les non-musiciens, c'est un divertissement, c'est une soirée agréable le vendredi, le samedi, le dimanche après-midi. C'est varié, puisqu'on a vraiment de toutes sortes de musique. Donc c'est très varié.
Il y a plusieurs formules. Il y a une formule achat des billets pour le vendredi et le samedi, puis il y a une formule abonnement. Est-ce que vous avez encore de la place?
Il y a encore de la place, oui. Donc il y a une formule abonnement, 3 jours. Ensuite, vous pouvez acheter votre billet pour le vendredi ou pour le samedi ou pour le dimanche.
Comment on fait pour faire venir un Morrison ou un Ganch là à Saint-Maurice?
Bon, c'est relativement, je dirais, assez simple parce que je les connais.
Le Nozil est aux États-Unis, Morrison, il est australien.
Parce que j'ai, moi, les contacts, en fait. C'est des contacts un peu privilégiés. Mais c'est relativement simple à faire. Et puis, il faut avoir aussi un peu de culot. Donc, si on a un petit peu de culot, on y va, on prend le téléphone, on appelle ces gens. Bon, Ganch, moi, je le connais, ça fait bientôt 20 ans que je le connais, que je travaille avec lui. Donc, on se voit, on se téléphone, on s'envoie des emails, on est des amis, en fait.
C'est des personnes qui aiment ce style d'ambiance?
Alors, il y a en tout cas un mouvement brass band qui est clair en Suisse, hein, et surtout en Valais. Donc, il y a vraiment un mouvement brass band qui existe, qui prend toujours un peu plus d'essor, et ça vaut la peine, à mon avis, pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas, de venir. En fait, c'est une découverte aussi, à quelque part. Avec un brass band, vous n'entendrez jamais, avec une fanfare, par exemple, vous aurez de la peine à entendre des pianissimo ou des fortissimo. Avec un brass band, ils savent faire ça, parce qu'ils travaillent beaucoup là-dessus.
Il y a le Brass Master 2024, donc on l'a compris, c'est la première fois que ça existe.
C'est la première, oui.
Le 2025, il est déjà dans la tête?
Alors, il est...
Ou le 2026?
Alors, il est en tout cas dans la tête, il est là. Maintenant, avec même les solistes envisageables. Maintenant, on va boucler cette édition 2024. Et après, avec le comité, on va se réunir. Et puis, on va décider, est-ce qu'on fait quelque chose en 2025 ou on fait tous les 2 ans? On verra.
Donc, on le répète, le 22, 23, 24 mars 2024, au Théâtre du Martelet, en présence de James Morrison et Thomas Ganch, il y aura le Swiss Army Force Big Band, le Swiss Army Force Brass Band, l'ensemble de cuivre Ambitus, l'ensemble de cuivre Melodia, donc c'est le brass band de Vaudois. Hein.
Oui, Melodia, oui.
Et brass band de Fribourg, le vendredi 22 mars, donc grande soirée d'abord avec le Big Band de l'armée, ensuite cette fameuse session jazz et les musiciens qui vont animer la fin de soirée. Le samedi matin, le kiosque à musique à partir de 11h, donc les gens sont invités, c'est entrée libre.
Entrée libre, oui.
Le masterclass l'après-midi. Le soir, à 20h30, le brass band de l'armée suisse, de nouveau avec Morrison et puis Ganch, et puis de nouveau après l'animation musicale. Ils seront entraînés le vendredi, donc ils seront certainement meilleurs le samedi. Et puis le dimanche, l'après-midi, 14h, l'ensemble de cuivre Ambitus, 15h30, ensemble de cuivre Melodia, 17h, brass band Fribourg, et 18h15, le morceau d'ensemble ou Messid band, comme voilà. C'est inscrit là. Il y a encore des places.
Oui, il y a encore des places. Et je précise que l'apéritif du kiosque à musique, le samedi 23 à 12h30 est offert par la commune de Saint-Maurice.
Merci, la commune. Puis il y aura, donc l'animateur, c'est Jean-Marc Richard.
Non, Jean-Marc Richard présente.
Qui était déjà un show à lui tout seul.
Exactement. Non, la programmation, donc le présentateur, ça sera Jean-Pierre Chevalier.
Jean-Pierre Chevalier. Alors, un grand merci de nous avoir suivis ce soir. Merci à nos invités du soir, Éline Premant, Alexia Kouta, Bernard Bouillot, Evili Tumbrunnen.
Tum, ouais.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Jeudredi. D'ici là, Gone Radio reste présente sur Internet et sur DAB+, ainsi que sur les box NetPlus et Swisscom Blue, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et sur le site internet agoneradio.ch. Bonne suite de Jeudredi soir, à bientôt sur Agone Radio.